Il est midi sur Radio Orient. Bonjour à tous. Le journal Loïc Barrière. Les titres de cette édition, la trêve entre Israël et le djihad islamique est entrée en vigueur à Gaza. Les opérations israéliennes ont fait 44 morts, dont 15 enfants et plus de 311 blessés. Du carburant a pu être acheminé ce matin dans le territoire palestinien pour alimenter la centrale électrique de Gaza, une population qui subit un blocus israélien depuis 2007. Ziad Medouk, professeur de français à Gaza, nous expliquera en quoi consiste ce blocus. SOS Méditerranée, MSF et Sea-Watch appellent les États européens à déployer des moyens maritimes de recherche et de sauvetage en Méditerranée centrale pour éviter de nouveaux décès de migrants. Entretien avec Sophie Beau, directrice générale de SOS Méditerranée. Enfin, Gérald Darmanin annonce qu'il va intensifier la lutte contre les rodéos urbains. Après 3 jours de bombardements, Israël et le djihad islamique ont conclu une trêve avec la médiation de l'Égypte. Le cessez-le-feu est entré en vigueur dans la nuit. Les opérations israéliennes, qui avaient débuté vendredi, ont fait au total 44 morts, dont 15 enfants. Il y a eu 311 blessés. Ces frappes ont tué le commandant de la branche armée du djihad islamique, Taïsir el-Jabari, mais aussi une fillette de 5 ans. Le djihad islamique a riposté en tirant près d'un millier de roquettes dans le week-end sans faire de victimes. Samedi, les Israéliens ont tué un autre responsable du djihad islamique, Khaled Mansour, à Rafah. Joe Biden a salué le cessez-le-feu et remercié le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi pour le rôle joué par son pays dans la négociation. Le président américain a également demandé que des enquêtes soient menées sur les victimes civiles qu'il a qualifiées de tragédie. Ce lundi matin, des camions de carburant sont entrés à Gaza via le point de passage de Kerem Shalom. Samedi, la seule centrale électrique de Gaza avait cessé de fonctionner en raison d'une pénurie de carburant, mais le blocus imposé par Israël se poursuit. Quelles sont les conséquences de cette mesure pour la population? On écoute Ziad Medouk, poète et professeur de français à Gaza.
Le blocus, ça veut dire la fermeture totale de tous les passages. Auparavant, il y avait 5 points de passage pour qui reliaient la bande de Gaza. Aujourd'hui, il y a seulement 2 passages. Auparavant, avant 2007, avant le début du blocus, il y avait un passage pour les carburants, un passage pour les produits alimentaires, un passage pour les marchandises, un passage pour l'exportation, la sortie des fruits et des légumes de Gaza. Mais actuellement, il y a un seul passage. Donc, il y a une pression sur le passage, notamment de Kerem Shalom. Et deuxième chose, le passage de Beit Hanoun, il est limité. Donc, chaque jour, il y a entre 60 à 100 personnes qui utilisent le passage. En majorité, donc, les organisations internationales. Donc, le blocus israélien inhumain, ça veut dire fermeture totale des passages. Ça veut dire la non-entrée. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 1300 produits qui n'entrent pas à la bande de Gaza par ordre militaire israélien. Et donc, il y a des conséquences graves sur la population. Le blocus israélien, ça veut dire empêcher les Palestiniens de quitter les territoires de Gaza. Le blocus de Gaza, ça veut dire empêcher les Palestiniens de faire sortir leurs fruits et légumes de qualité. Le blocus de Gaza, ça veut dire freiner donc la croissance économique de cette économie fragile en dégradation à cause des agressions. Blocus, ça veut dire attaquer. La marine israélienne attaque au quotidien les bateaux de pêche et tire sur les pêcheurs. Et surtout, le blocus, il y a un blocus maritime, ça veut dire il y a un blocus qui empêche, ça veut dire les pêcheurs d'aller en plus de 6 miles dans la mer de Gaza. Encore le blocus, ça veut dire empêcher les paysans d'aller travailler sur leur terrain et sur leur terre, sur les frontières, donc dans l'est, l'ouest et le centre de la bande de Gaza. Donc le blocus, et il y a plusieurs formes de blocus, mais je pense que le blocus, c'est une politique de punition collective, donc prise par l'autorité israélienne pour mettre la pression sur cette population civile. C'est la seule perdante de ce blocus inhumain, qui a des conséquences économiques, psychologiques et sociales très graves, c'est la population civile. Plus de 2 millions de Palestiniens qui souffrent de ce blocus parce qu'ils peuvent pas aller, les étudiants ne peuvent pas aller poursuivre leurs études dans les universités étrangères à cause de ce blocus. Les malades et les patients ne peuvent pas sortir pour se soigner dans les hôpitaux à cause de ce blocus. Les paysans ne peuvent pas exporter donc leurs fruits et légumes de qualité à cause de blocus. Les usines ne peuvent pas recevoir les matières premières à cause de ce blocus. Donc les Palestiniens de Gaza, ils ont seulement droit à 6 heures d'électricité parce que les carburants, ils n'entrent pas par ordre militaire israélien à la seule centrale électrique. Il était bombardé à plusieurs reprises depuis 2009 par l'aviation militaire israélienne. Donc le blocus est enfermé les Palestiniens dans une prison à ciel ouvert. C'est une classe palestinienne qui continue à s'accrocher à la vie malgré donc le blocus et ses conséquences graves sur toute la population civile.
Ziad Medouk, poète et professeur de français à Gaza. Le gouvernement veut augmenter de 11,4% les crédits alloués à l'éducation, au travail et aux solidarités. C'est ce qu'annonçait le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. Au journal Les Échos, le budget de l'emploi progressera de 6,7 milliards pour financer l'apprentissage, avec un objectif d'un million d'apprentis d'ici à la fin du quinquennat. Gabriel Attal promet par ailleurs qu'avec le budget de l'éducation nationale, aucun enseignant n'entrera dans la carrière à moins de 2000 euros net. SOS Méditerranée, MSF et Sea-Watch alertent sur le risque de nouveaux décès de migrants en Méditerranée. En cette période estivale, les trois ONG réclament de toute urgence le déploiement de moyens maritimes de recherche et de sauvetage de la part des États européens, notamment au large de la Libye. Entretien avec Sophie Beau, directrice générale de SOS Méditerranée.
Nous demandons des choses que nous répétons depuis plusieurs années, mais qui sont particulièrement pressantes cet été, vu la situation critique en mer Méditerranée. D'abord, la première chose que nous demandons, c'est qu'il y ait une réponse européenne des États sous forme de flotte de recherche et de sauvetage adéquate en Méditerranée centrale, parce qu'il y a énormément de traversées et, comme vous le savez, toujours une très forte mortalité. Donc c'est le premier point très important, il manque des bateaux de sauvetage. On ne peut pas couvrir la zone avec les quelques navires humanitaires présents qui ne suffisent pas, qui sont pris très rapidement par des sauvetages et qui ensuite doivent aller débarquer jusqu'en Sicile, sont bloqués plusieurs jours pendant les escales, etc. Donc ça ne suffit absolument pas les moyens de sauvetage. Ça c'est le premier point. Ensuite, ce qu'il faut, c'est un système de coordination des secours qui soit remis en place, un système fonctionnel en Méditerranée centrale, parce qu'aujourd'hui, cette responsabilité échoit aux gardes-côtes libyens, qui ne sont pas du tout en capacité de coordonner les secours de manière efficace. Ils ne nous transmettent pas les appels de détresse, ils ne mobilisent pas des moyens de secours, et quand bien même ils vont eux-mêmes intercepter les embarcations, qui sont partis de Libye, ils les ramènent dans cet enfer libyen que les personnes cherchent justement à fuir. Donc c'est un vrai problème sur la coordination des secours. Il faut donc que les États puissent répondre à tous ces appels de détresse. Il faudrait remettre en place un mécanisme de coordination. Dernier point, c'est que nous demandons à ce qu'un mécanisme coordonné européen de débarquement soit mis en place pour que les personnes n'aient pas à attendre des jours et des jours en mer la désignation d'un port sûr par les autorités européennes, ce qui bloque autant de temps nos bateaux sans être opérationnels en mer.
Alors l'opération Mare Nostrum s'est arrêtée en 2014. Comment imaginez-vous cette flotte européenne que vous appelez de vos voeux ?
L'opération Mare Nostrum, c'était une opération de la marine italienne qui avait mis en place plusieurs navires de recherche et de sauvetage, des moyens aériens pour le repérage des embarcations en détresse. Cette opération avait prouvé son efficacité puisqu'ils ont pu secourir plus de 150 000 personnes en détresse en un an d'opération. Donc maintenant, est-ce que c'est à un seul État faire ces efforts-là ? Pas forcément, ça pourrait être plutôt une flotte européenne où des moyens conjugués soient mis en place conjointement par les États européens. En fait, peu importe, je dirais, la nationalité des navires, mais il faut des navires de sauvetage présents et puis des moyens de détection aérienne, parce que comme je le disais, aujourd'hui, il n'y a plus de coordination des secours en Méditerranée centrale qui soit efficace. On travaille à l'aveugle, il n'y a pas de signalement des embarcations en détresse.
Est-ce que vous avez le sentiment que votre appel peut toucher l'opinion publique à défaut des gouvernements?
Alors, en ce qui nous concerne, nous sommes une organisation de sauvetage en mer et ce sont des questions de vie et de mort dont on parle. On ne parle pas des politiques migratoires à mettre en place ensuite qui sont complexes, sur lesquelles les débats sont compliqués et ce n'est pas notre sujet. Nous parlons de sauver des vies en mer. Si nous ne portons pas secours à ces personnes qui sont en péril sur des embarcations en détresse, c'est la mort qui les attend. Depuis le début de l'année, il y a déjà plus de 900 morts qui sont décomptés par l'Organisation internationale des migrations sur l'axe maritime de Méditerranée centrale, qui, je le rappelle, est le plus meurtrier au monde. Ce sont des estimations à minima qui, en fait, ne comptent même pas tout les embarcations qui ont chaviré, puisque beaucoup d'entre elles chavirent sans aucun témoin, et on ne peut même pas décompter toutes les personnes disparues. Donc, en fait, là, on parle vraiment d'une situation critique de vie et de mort, et je pense qu'il n'y a pas de débat. C'est un impératif légal, puisque c'est une obligation du point de vue du droit maritime international d'aller porter assistance, mais c'est aussi une obligation morale que de porter assistance à des personnes qui sont en danger de mort. Et ensuite, les questions migratoires, c'est un autre sujet à débattre dans les pays concernés.
Alors, SOS Méditerranée rappelle souvent que l'attente en mer pour les personnes qui ont été secourues est beaucoup trop longue.
Alors effectivement, malheureusement, depuis que l'Italie n'a plus la gestion de cette coordination des secours en Méditerranée centrale, ce sont donc les Libyens qui sont censés faire cette coordination et ils ne sont en fait pas en capacité de nous désigner un port sûr puisque, comme je le disais plus tôt, les côtes de Libye n'offrent pas de port sûr pour ces rescapés de nos sauvetages. Les personnes qui fuient la Libye, fuient des exactions d'une extrême violence qui sont commises à l'encontre des migrants, des extorsions de fonds, des tortures, des viols, l'esclavage. Tout ça a été documenté à de nombreuses reprises et est bien connu. Donc les Nations Unies le rappellent, hein, il n'y a pas de port sûr en Libye et il n'est pas possible de désigner un port en Libye pour accueillir ces rescapés. Du fait de ce système qui est totalement incohérent, où la Libye maintenant est en charge de coordonner les secours, et donc ils ne sont pas en capacité de désigner un port sûr, nos bateaux se voient dans l'obligation, une fois qu'on a fait un sauvetage et qu'on attend que les autorités maritimes compétentes nous désignent un port, on est obligé d'attendre des négociations entre États européens qui prennent des jours et des jours et qui imposent en fait de très longues attentes supplémentaires aux rescapés. Et c'est cette situation qui est tout à fait inacceptable et indigne, qui ne correspond pas d'ailleurs à l'esprit du droit maritime, hein, qui veut que les pays côtiers ouvrent un port sans délai pour décharger les capitaines de leurs responsabilités une fois qu'ils ont accompli un sauvetage.
Et vous redoutez de nouveaux drames en mer à cette époque de l'année qui est plus propice à la navigation ?
Exactement. Nous redoutons qu'il y ait de nouveaux naufrages puisque ces embarcations continuent à traverser. On sait que pendant l'été, les conditions météorologiques sont plus favorables au départ puisque la mer, globalement, est plus calme. Néanmoins, les dangers de cette traversée sont immenses. Il faut rappeler qu'il s'agit de 400 km de mer, de haute mer à traverser sur des embarcations qui sont en général inaptes à cette navigation en haute mer. Donc les dangers sont immenses, les personnes se retrouvent en péril très rapidement et donc nous redoutons effectivement de nouveaux drames. Les quelques navires humanitaires ne peuvent pas couvrir cette zone immense de détresse. Nos navires sont bloqués en plus en attendant parfois pendant une semaine, 8 jours, 9 jours, jusqu'à 10 jours, les ports sûrs désignés finalement en général par l'Italie. Il n'y a pas la capacité suffisante aujourd'hui pour répondre aux besoins, donc il est urgent de faire quelque chose pour que ça change en fait, parce que ça fait des années que cette situation n'est pas prise en compte par les autorités européennes.
Sophie Beau, directrice générale de SOS Méditerranée. La Chine poursuit ses exercices militaires près de Taïwan. Pékin veut ainsi protester contre la visite sur l'île de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants. Ces derniers jours, l'armée chinoise a mené les plus grands exercices militaires de son histoire dans cette zone. La Chine a envoyé des avions de chasse, des navires de guerre, des drones et a tiré des missiles balistiques. Une tension qui ne faiblit pas puisque Taïwan organisera cette semaine des exercices exercice militaire à balles réelles simulant une défense de l'île contre une invasion chinoise. Gérald Darmanin annonce une intensification des contrôles dans toute la France pour lutter contre les rodéos urbains. Le ministre de l'Intérieur dénonce des actes criminels qui viennent de blesser très gravement des enfants à Pontoise ce week-end. 10 000 contrôles seront effectués au mois d'août, promet Gérald Darmanin. Enfin, un troisième homme a été mis en examen et écroué dans l'enquête concernant l'agression de trois policiers en civil, une agression qui s'était déroulée le 20 juillet dernier dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Cette édition est terminée, je vous retrouve à 15h pour le Flash, 17h30 pour le journal. Excellent après-midi à l'écoute de Radio Orient.